Accès libre.
Bonjour, ici Anne-Laure Janson. Je remplace exceptionnellement Benoît Racette, notre cher Benoît qui est resté à la maison aujourd'hui pour se soigner. Alors on pense à lui, on lui envoie plein d'énergie en espérant le retrouver la semaine prochaine en pleine forme. Et nous voilà partis pour 90 minutes d'accès libre. Aujourd'hui, on s'interroge et on vous pose la question: comment améliorer la qualité de vie des parents d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme? Peut-on y arriver lorsque les deux parents travaillent? Répondez directement à la page d'accueil de la radio en tapant canalem.vusevoix.com, sujet du jour, ou en allant sur nos réseaux sociaux Canalem, la radio de Vusevoix. En lien avec cette question, nous recevons Nathalie Poirier, psychologue, professeure au département de psychologie de l'UQAM, et Joanne Leduc, mère de deux enfants autistes, cofondatrice et présidente du Salon de l'autisme. Avec elle, on abordera la qualité de vie des parents d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme. Serait-elle directement liée à leur état d'esprit? Quoi faire pour baisser le niveau de stress à la maison? Et plusieurs bonnes nouvelles à partager avec vous. Trois immeubles destinés aux personnes vulnérables seront construits dans l'est de Montréal. Ronald Beauregard, le directeur de la Fondation des aveugles du Québec, nous en parle dans quelques instants. C'est aussi le début des inscriptions pour le camp d'immersion en anglais de l'INCA. Najla Nouri, chef des programmes psychosociaux de l'INCA Québec, nous donnera tous les détails dans 20 minutes environ. Existe-t-il une pornographie spécifique pour les personnes en situation de handicap? Le Japon est-il un pays où il fait bon voyager en fauteuil roulant? Restez avec nous pour entendre l'avis de nos chroniqueuses. Et tout de suite, on parle habitation pour personnes vulnérables dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve avec la Fondation des aveugles du Québec. Tout ça sur Canalem, la radio de Vusevoix. Alors, avec nous pour en parler, Ronald Beauregard, directeur général de la Fondation des aveugles du Québec. Bonjour, Monsieur Beauregard.
Oui, bonjour, madame.
Alors, au Québec, près de 100 000 personnes sont handicapées visuelles et plus des deux tiers habitent la région de Montréal. Autant dire que les besoins sont là.
Oui, c'est ce qu'on peut dire, oui. Selon différentes études, tout porte à croire que, justement, il y aura environ 100 000 personnes handicapées visuelles au Québec. Comme vous le dites, facilement le deux tiers habitant la région de Montréal, le Grand Montréal.
Et depuis combien de temps attendiez-vous cette bonne nouvelle?
Ben écoutez, ça fait déjà 25 ans qu'on travaille dans le domaine de l'habitation. On a réalisé jusqu'à présent 3 projets.
Ouais.
C'est sûr que c'est un travail qui se fait à longue haleine. Dans les 2 derniers projets qui ont été acceptés, il y en a l'un d'entre eux est en construction actuellement, le second s'en vient. Donc ça a quand même été la question de quelques années de travail puis de promotion auprès des différents partenaires dans ce projet-là.
Oui, j'imagine. Et pouvez-vous nous donner des détails sur ces 3 projets?
Oui, ben les projets sont situés dans l'est de Montréal, un petit peu à l'est du métro Henri-Beaugrand, mettons à 5 à 10 minutes d'autobus. Il y en a un actuellement en construction sur la rue Pierre-Bernard, ça va être un 12 appartements, alors que le second va être construit tout près de là, sur la rue Sherbrooke, près de Desmarteaux. Celui-là, par contre, ça va être un immeuble de 39 appartements.
Okay.
Donc, 51 appartements d'ici 2 ans ou à peu près.
OK. Et quel pourcentage de ces logements sera destiné aux personnes vivant avec une déficience visuelle?
Ben écoutez, c'est la totalité.
Okay.
C'est notre clientèle à la Fondation des aveugles du Québec. Le point commun de tous ces locataires sera le fait qu'ils ont une déficience visuelle.
D'accord.
Évidemment, il y en a beaucoup qui ont des incapacités associées, soit au niveau moteur ou encore sur le plan auditif.
Mm-hmm. Parce que la nouvelle, quand elle est parue dans le Journal de Montréal le 28 février dernier, l'article mentionnait qu'il allait avoir aussi des personnes sans domicile fixe ou... d'autres personnes en situation de vulnérabilité, donc c'est pas le cas finalement.
Non, c'est pas le cas.
Ok, d'accord, super. Tant mieux pour les personnes qui ont une déficience visuelle.
Exactement.
Et est-ce que tous les logements vont être accessibles universellement? Est-ce que cette notion rentre
pas
en compte?
Tous.
Pas tous.
Évidemment que lors de la sélection des gens, on va tenir compte des incapacités associées. Tous les logements sont adaptables, mais pas nécessairement adaptés. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans le cas où l'un des candidats se qualifie pour un appartement, s'il y a des incapacités associées, évidemment que l'appartement sera adapté pour répondre aux besoins du locataire.
Mmh. Et comment se qualifier alors pour obtenir un de ces logements?
Ben, écoutez, la première des choses, c'est de s'inscrire sur notre liste de demandeurs, soit en contactant notre bureau ou encore en allant sur notre site web. Vous allez www.fondationdesaveugles.org à l'onglet Habitation, vous allez trouver le formulaire d'inscription.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes?
Écoutez, il y a des gens, oui, que ça fait des années qu'ils attendent.
Donc, il y a peu de chances qu'on soit les
non,
heureux élus.
Il y a toujours des chances parce que l'ancienneté est un des critères. Ça ne veut pas dire que une personne qui est sur la liste depuis 3 ou 4 ou 5 ans va nécessairement se qualifier. Il y a plusieurs autres variables dont on tient compte. Il y a la condition socio-économique, il y a la surpopulation d'un appartement, il y a l'hygiène d'un appartement. Donc, il y a plusieurs variables dont on tient compte quand vient le temps d'attribuer un appartement. C'est pas uniquement l'ancienneté.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y aura des services dédiés à ces personnes à proximité ou à l'intérieur de ces projets?
Ben écoutez, ce qui a trait à ces deux nouveaux immeubles, sont situés, il y en a l'un d'entre eux qui est situé sur la rue Sherbrooke, à proximité des différents services, c'est-à-dire épicerie, pharmacie. Mm-hmm. Comme je vous disais tout à l'heure, environ 5 à 10 minutes d'autobus du métro Honoré-Beaugrand, pas très loin du centre commercial Place Versailles non plus. Donc, au niveau de l'accessibilité, c'est quand même assez... très bonne accessibilité.
Oui.
C'est la même chose pour Pierre Bernard aussi, qui ne sera pas très, très, très loin. Donc, au niveau de l'accessibilité, ça sera facile pour les services publics, services de transport en commun aussi.
Parce que, est-ce que c'est vous qui avez choisi ces lieux ou ils vous ont été imposés, finalement?
Ben, pas imposés, mais c'est sûr que ça va toujours selon la disponibilité des terrains
Ouais. Et
la faisabilité des projets. C'est souvent à Montréal, le problème, c'est le coût d'acquisition des terrains.
Mm-hmm.
Donc, quand on est en mesure de profiter de la gentillesse ou encore de la grande compréhension de certaines personnes qui veulent nous aider,
ben
à ce moment-là, le coût est moins élevé.
Ouais.
Mais la Ville de Montréal nous aide beaucoup
mm-hmm.
là-dedans aussi.
Oui, c'est ça. Alors, quel va être le mandat de la Fondation des aveugles du Québec?
Par rapport, vous voulez dire à l'habitation?
Ou à la gestion de ces logements.
Ah, ben, on prend la gestion complète, c'est-à-dire au moment où on se parle, on participe à l'élaboration des projets. Dans le cas de la rue Pierre-Bernard, c'est déjà en construction, donc on fait partie des différentes réunions, les réunions de chantier. Par la suite, ça va être, comme on vous disait, de rencontrer les candidats en mm-hmm. session d'information, par la suite les rencontrer de façon individuelle, faire la sélection, ensuite ça va être signer les baux, les aider à aménager leur appartement. Donc, tout ce qu'un propriétaire doit faire, mais un propriétaire avec une clientèle un peu plus, demandante.
Ouais. Et alors, quand verront-ils le jour, ces immeubles?
Le projet sur la rue Pierre-Bernard, ça sera au cours de l'été 2018, l'été qui vient.
Okay.
Alors que le projet sur Sherbrooke, ça va être fin 2019 environ.
OK, donc il faut s'inscrire absolument rapidement.
Oui, comme je vous ai dit, empêchez-vous pas de vous inscrire.
Ouais.
L'ancienneté n'est pas le critère, c'est un des critères d'éligibilité.
D'accord, ben merci beaucoup M. Ronald Beauregard, directeur de la Fondation des aveugles du Québec, de nous avoir fait part de ces détails.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde.
Existe-t-il une pornographie spécifique pour les personnes en situation de handicap? C'est notre super sexologue à domicile, Sonia Boucher, qui a tenu à rester à Accès Libre et qui maintenant est aussi dans l'émission C'est bon pour la santé. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Ça va bien?
À moi, oui, merci.
Donc c'est vous qui allez nous répondre aujourd'hui à cette grande question. Alors je vous la repose. Existe-t-il une pornographie spécifique pour les personnes en situation de handicap?
Évidemment, comme à mon habitude, il y a plusieurs volets à ma réponse. Donc, effectivement, il existe une pornographie qui est titrée pour situation de handicap ou pour personnes handicapées. Maintenant, est-ce que cette pornographie-là est vraiment inventée dans le but de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap? Mm-hmm. Ça, c'est autre chose.
Mm-hmm.
Moi, par exemple, j'ai déjà travaillé avec un jeune homme.
Oui.
Que je vais nommer Carl pour l'occasion aujourd'hui, mais effectivement qui est un non-fictif, qui a 21 ans, qui venait me dire, me voir, qu'il consommait beaucoup de pornographie, parce que dans toutes les communautés, dans toute la société, ça peut être une dépendance importante.
Oui.
Et lui me consultait pour ça. Il me disait, le problème, c'est que même ça fait des années que je consulte ou que je...
Consomme.
J'utilise,
ouais.
Oui, consomme cette pornographie-là. C'est pas possible pour moi de retrouver les mêmes éléments dans ma vie sexuelle quotidienne. Mm-hmm. Parce que même si les images, parfois, et c'est très rare d'en trouver, sont très réalistes, les gens oublient qu'il s'agit de films, hein?
Ouais, ouais, ouais.
De fiction, finalement.
Mm-hmm, de mise en
parce
scène.
Que ça ouais. Oui, absolument. Donc, il pensait que, par exemple, une préposée à qui il demandait pouvait, avec plaisir, se donner à des services sexuels.
Ah oui?
Il ne comprenait pas pourquoi c'était si simple dans la pornographie et qu'il y avait tant de personnes qui voulaient être des pornstars, finalement, mais que ce n'est pas comme ça dans la réalité.
Oui. Et alors, donc, en quoi elle est spécifique? Est-ce qu'elle existe vraiment?
Celle qui existe vraiment, il y a par exemple une réalisatrice importante qui s'appelle Laurie mm-hmm. Erickson, qui elle produit, c'est une personne en situation de handicap qui produit de la pornographie avec, par et pour des personnes en okay. situation de handicap. Mais sinon, dans les sites populaires comme YouPorn et d'autres, là, ce qu'on remarque ou ce que les études en tout cas rapportent, c'est que majoritairement, le handicap va être ciblé sur les personnes avec amputation.
Mm-hmm. Okay.
Ce qui n'est pas très représentatif, finalement, de la communauté.
Non.
C'est un petit pourcentage de la communauté qui sont amputés et la majorité de la pornographie pour personnes en situation de handicap ça révèle ça.
OK. Donc, ce n'est pas pour toutes les situations de handicap. Là. Est-ce qu'il n'y a pas de vidéo description ou... sur des,
non,
sur
non,
des sites comme
exactement.
Ça.
Okay. Voilà, ça c'est un autre problème, l'accessibilité. Et aussi, un autre problème qu'on remarque de la pornographie qui s'adresse aux personnes en situation de handicap, c'est qu'on va prendre des acteurs, des actrices sans handicap, mm-hmm. qui vont simuler le handicap.
Mm-hmm.
Et donc, à ce moment-là, c'est certain que ce n'est pas représentatif. Les personnes sont capables, même avec un même diagnostic qu'une autre, par exemple, d'avoir beaucoup plus de flexibilité et d'autres attributs comme ça qui ne seraient pas possibles réellement avec le handicap. Donc, l'image est grandement faussée, encore plus que dans la société.
Oui. OK.
Voilà.
Donc, finalement, ce jeune homme, comment vous lui avez expliqué le décalage quand on
vient? En fait, la même chose que pour toutes les autres personnes, c'est de ramener à l'aspect fiction de la pornographie, même si ça a l'air très réel. Évidemment, c'est schématisé, c'est romancé. Mm-hmm. Bon, romancé, faut spécifier la romance, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que l'approche va être grandement facilitée, comme si tous les partenaires sexuels étaient prêts à nous recevoir.
Oui. Tout à fait. Et ce site, alors, de Par et Pour, est-ce qu'il est accessible à tous? Il est gratuit ou...
En fait, il faut voir les travaux de Laurie Erickson. Elle vend surtout ses films.
Ouais.
Donc, c'est pas un site en tant que tel.
D'accord.
Mais il faut aller voir ses travaux parce qu'elle a aussi beaucoup d'essais écrits, là, des histoires, des nouvelles érotiques qu'elle a écrites qui s'adressent aux personnes en situation de handicap.
Mm-hmm. Donc, ça rend la chose plus réaliste.
Oui, et c'est pas la seule réalisatrice, je sais qu'il y en a d'autres, mais c'est une importante que je me permets de commenter ses travaux parce que moi-même, je les étudie. Donc, okay. Dans ce sens-là, mais je sais qu'il y en existe d'autres. C'est vraiment de chercher des personnes qui sont avec des personnes en situation de handicap et non qui sont schématisées avec des personnes sans handicap.
Mm-hmm. Je comprends. Oui, intéressant.
Oui.
D'accord.
Oui, absolument.
Donc, il y en a une, c'est une niche. Il n'y a pas beaucoup de personnes sérieuses qui la produisent, mais vous nous en avez cité une. Et sinon, beaucoup de clichés autour de cette
Absolument.
Réalité.
Donc, question accessibilité, c'est vraiment restreint. La pornographie, ce n'est pas un service qu'on va d'emblée réfléchir pour les personnes en situation de handicap, mais plutôt pour ceux qui ont les personnes en situation de handicap comme fétiche.
Mm-hmm.
Donc, ça ne répond pas nécessairement à la bonne clientèle.
Et pensez-vous qu'il y a vraiment un besoin d'avoir une pornographie spécifique à une situation de handicap?
En fait, c'est que ça promeut la diversité.
Oui.
Si on promouvait seulement la sexualité sans handicap auprès des personnes en situation de handicap, peut-être pour certaines, ça va être plus difficile de développer tout un imaginaire érotique, finalement.
Tout à fait. C'est vrai. Exact. Oui. Intéressant. Ben, merci beaucoup, Sonia Boucher, pour cette chronique. Et donc, on va vous retrouver dans un mois dans Accès Libre.
Oui, et vous faites un très beau travail de remplacement de M. Vasquez.
Ah ben,
félicitations.
Je vous remercie. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.
La nuit s'impose sur le jour. Sur ma grande fortune, car mon cœur, quand vient la lune, se trouve seul devant lui-même, comme le vent s'amusait. Je ne suis pas sans regret, pourquoi faut-il que l'amertume ne s'en tienne pas qu'aux agrumes? Mon lit est comme un désert, un désarroi que je souhaite temporaire. La vie est un court voyage où je ne crains que mon courage. Jour après jour, je poursuis mon bonheur. Et jamais je ne désespère de trouver sur mon chemin quelque chose de malin, un peu d'amour. Sous les cieux plus heureux. La vie est un court voyage où je ne crains que mon courage. Jour après jour, je poursuis mon bonheur. Ah. ne crains que mon courage jour après jour. Je poursuis mon bonheur.
Question de la semaine. Comment améliorer la qualité de vie des parents d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme? Peut-on y arriver lorsque les deux parents travaillent?
Et c'est le temps d'inscrire nos enfants au camp d'immersion d'été de l'INCA. Sans transition, je parle avec Najla Nouri, chef des programmes psychosociaux de l'INCA Québec, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Najla.
Bonjour.
Donc, c'est bien en ce moment, vous avez ouvert le début des inscriptions pour ce camp d'immersion. Et quels sont les objectifs du camp d'immersion de l'INCA Québec?
En fait, les objectifs, c'est premièrement de favoriser l'autonomie des jeunes et bien sûr un 5 ans d'immersion de la langue seconde, alors leur permettre d'augmenter leur la langue en anglais, leur connaissance, oui.
Et où se déroule-t-il?
Ça va se dérouler, c'est en Ontario, au lac Joseph. Donc oui, voilà, c'est une place qui est vraiment adaptée. Qui appartient à INCA pour les différents camps, dont notre camp d'immersion.
D'accord. Et combien de participants vous pouvez accueillir?
L'année passée, on a accueilli 8 jeunes. Cette année, on aimerait accueillir 10 jeunes.
D'accord.
Donc, entre 11 et 17 ans.
OK. Et est-ce qu'il y a plusieurs dates possibles dans l'été?
Non, c'est vraiment une semaine.
D'accord.
Donc, ça va être à la fin juillet. La dernière semaine de juillet, donc du 22 au 27 juillet, si ma mémoire est bonne, là, oui.
Est-ce que les inscriptions partent vite?
Quand même, oui. Si je me fie à l'année passée, ça s'est pris assez rapidement. On a même eu des gens là, sur la liste d'attente. Mm-hmm. Et là, à la radio aujourd'hui, c'est une primaire parce que nous, on n'a pas encore diffusé toute l'information pour l'été. On va le faire cette semaine, justement.
Ah.
Donc, on vous l'annonce à l'avance.
D'accord, ben, c'est
ça
gentil.
Ça va avoir lieu.
Et donc, et alors, toutes les activités, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui est organisé durant ce camp?
Oui, en fait, la thématique, cette année, ça va être les activités sportives.
D'accord.
Donc, des sports adaptés, accessibles pour les personnes non-voyantes, semi-voyantes. Alors, par exemple, il va y avoir du judo, du soccer, hockey COSA, bien sûr, l'incontournable goalball. Donc, ça va être surtout axé sur les sports, oui.
Et donc, ça doit créer une dynamique incroyable de 10 jeunes une semaine ensemble à faire des activités sportives. Ça doit créer des liens.
Tout à fait, axer des liens, puis de connaître en même temps, d'apprendre l'anglais. Donc, c'est avec des jeunes, il y a une quarantaine de jeunes là-bas, sur place,
Donc
francophones, anglophones. Les moniteurs parlent surtout l'anglais. Alors, ça va leur permettre de s'immerger à la langue anglaise.
Donc, 40 jeunes de partout du Québec, dont 10 jeunes qui viennent via l'INCA avec une déficience visuelle.
Partout dans le Canada.
Dans le Canada, OK,
oui,
pour apprendre l'anglais.
En fait, ce sont les quarantaines, ce sont des anglophones, disons une trentaine d'anglophones, qui viennent participer à différents camps.
D'accord.
Et nous, on envoie 10 jeunes pour le camp d'immersion du Québec.
OK, d'accord. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a une journée type dont vous pourriez nous parler?
Oui, en fait, les jeunes, le matin, se lèvent vers 7 heures. 7h30, il y a un déjeuner à 8h. Et c'est vraiment comme les jeunes l'année passée disaient que c'était comme un camp de luxe parce qu'ils ont chacun des tables par chalet et sont servis à la table. Donc, après ça, puis les chambres, en fait, c'est 2 jeunes par chambre et ils ont une salle de bain directement dans leur chambre, comme à l'hôtel un peu.
Eh oui.
Et puis, donc, alors, premièrement, le matin, il y a le déjeuner. Par la suite, il y a une petite pause. Le matin, il y a 2 activités, une qui est vers 10h, l'autre vers 11h, activité sport ou loisirs. Et par la suite, on a le dîner.
Mm-hmm.
Vers midi, ensuite un temps de pause et l'après-midi encore 2 périodes d'activité. Puis par la suite, il y a le souper, donc vers 18h, une autre pause et une activité de soir. L'activité de soir se déroule en grand groupe, donc tout le monde, tout le camp ensemble.
Mm-hmm.
Donc
c'est
ça peut être des feux de camp ou des choses.
Ouais. C'est pour ça que vous parlez d'immersion, parce qu'ils sont aussi avec des jeunes anglophones.
Exactement,
okay.
Oui. Soit par petits groupes dans la journée ou par grand groupe en soirée.
Ah, super. Et ça doit coûter une fortune aux parents, non?
En fait, ça coûte par jeune, pour le camp, là, la semaine, c'est 450 $ qu'on charge. Okay. Il y a une partie qui est défrayée par YNCA, mais 450 $. Et il y a aussi l'avion ou les déplacements pour se rendre jusqu'au camp.
Ouais.
Ça aussi, ou l'aéroport, ça, c'est couvert par les parents.
D'accord.
Et nous, on les accompagne là-bas. Là. Donc, si par exemple, on prend toute la gang de jeunes, on les rejoint à l'aéroport, on les accompagne pour aller en avion, par exemple.
Mm-hmm.
Donc, il y a un service pour ça aussi.
Ouais, c'est super. Et est-ce qu'il y a d'autres aides financières à part l'aide de l'INCA que les parents peuvent demander?
Oui, tout à fait. Donc, une fois que les parents inscrits sont jeunes, nous, on va pouvoir leur remettre la documentation avec des partenaires que l'on a, avec, par exemple, Sipia Toilette, la Fondation Sipia Toilette, mm-hmm. puis une autre aussi, là.
Mm-hmm. OK. Alors, dépêchez-vous, chers parents, d'inscrire vos enfants. Et comment on peut s'inscrire, Najla?
Oui. En fait, vous pouvez me contacter. Je pourrais, moi, m'occuper de la première étape, puis vous référer vers la bonne personne ressource pour les prochaines étapes.
Mm-hmm. Alors, je peux donner votre téléphone?
Oui, bien sûr.
Donc, c'est le 514-934-4622, poste 232.
Exactement.
C'est ça? Très
oui.
bien. Bien, merci beaucoup pour ces informations en primeur et au plaisir de vous reparler.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Accès Libre.
Question de la semaine. Comment améliorer la qualité de vie des parents d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme? Peut-on y arriver lorsque les deux parents travaillent?
Et pour cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nathalie Poirier, psychologue, professeure et chercheuse au laboratoire sur les familles d'enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme pour le département de psychologie de l'UQAM. Elle mène depuis plusieurs années des enquêtes sur la qualité de vie des parents d'enfants ayant un TSA. Bonjour Madame Poirier.
Bonjour.
Alors cette étude, il y a un article qui est paru dans l'UQAM, actualité sur le site de l'UQAM, actualité UQAM, résilient à quel prix? Et également dans la revue anglaise Quality of Life Research. Et avec nous, au bout du fil, même en semaine de relâche, Joanne Leduc, mère de deux enfants autistes de 13 et 15 ans, si je ne me trompe pas. Bonjour Madame Leduc.
Oui, bonjour, bonjour à
Merci
vous.
Merci d'être
Madame
avec
Poirier
nous.
Aussi.
Vous êtes cofondatrice et présidente du Salon de l'autisme qui malheureusement n'aura pas lieu cette année faute de moyens. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut espérer un salon de l'autisme en 2019?
Bien, en fait, il faudrait que toutes les planètes s'enlignent à cette fin, mais on est toujours ouvert à la discussion, évidemment. Je portais tout sur mes épaules les dernières années, donc c'est financièrement extrêmement difficile. Vous le savez, les parents, on veut justement en parler. On a comme notre vie bien remplie, donc ça a été un choix déchirant pour moi, mais j'ai favorisé ma famille là, pour 2018. Bon, on verra pour 2019 si quelque chose se présente. Évidemment, on est ouvert à toute suggestion ou un partenariat avec quiconque serait intéressé. Je crois que ça comblait quand même un grand besoin là, pour les parents.
Mais oui, toute forme d'aide est bienvenue pour la tenue de ce salon si utile, comme vous le dites. Alors, Madame Poirier, vous êtes intéressée au niveau de stress et aux stratégies d'adaptation de ces parents qui se donnent entièrement pour le bien-être de leurs petits, même devenus grands. Pourquoi vous êtes-vous intéressée uniquement aux parents d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme?
Probablement parce que c'est ma clientèle privilégiée, c'est-à-dire que j'ai réalisé une thèse de doctorat il y a plusieurs années et depuis, j'ai développé une expertise sur le plan du trouble du spectre de l'autisme. Alors, ces parents-là, pour moi, m'intéressaient davantage, d'autant plus que selon les données, on reconnaissait que les parents qui présentent pas les parents, mais en fait les parents qui ont un enfant qui présente un TSA étaient d'emblée plus anxieux que les parents qui avaient un enfant qui présentait par exemple une déficience intellectuelle ou un autre trouble du développement.
D'accord. Et cette recherche, en fait, elle est née, vous m'aviez dit, d'une comparaison avec la situation en France. Vous avez, comment vous avez procédé et quel résultat avez-vous obtenu?
Oui, exactement. En fait, le projet vient d'une thèse de doctorat d'une de mes collègues qui se nomme Émilie Cap et qui travaille à Paris-Descartes à l'Université de Paris. Alors, c'était son projet de thèse. Lorsqu'on s'est rencontrés, je trouvais très intéressant d'aller rechercher des données sur la qualité de vie. Alors, on a commencé à travailler ensemble et comme on n'avait jamais fait de recherche sur la qualité de vie auprès d'une population québécoise, on a commencé par faire cette recherche-là auprès d'une centaine de parents et maintenant certains articles vont distinguer en fait la qualité de vie chez les parents français versus les parents québécois.
Oui, je me permets d'ajouter ce que vous m'aviez dit là, c'est qu'en France, il y a peu de services encore selon... vos recherches sur pour les parents. Et au Québec, il y en a, et ils sont plutôt corrects. Mais les résultats sur l'anxiété, le stress sont assez similaires dans les familles.
Oui, surprenamment, nous aurions cru que la qualité de vie des parents québécois aurait été plus élevée, plus agréable, considérant que les parents au Québec ont accès plus facilement aux services comparativement en France. Par ailleurs, ce qu'on a eu comme résultat, c'est que leur qualité de vie, elle est très semblable pour ces deux populations de parents. Cependant, ce que je pourrais dire, c'est que les parents québécois sont satisfaits des services qu'ils reçoivent. Par ailleurs, ils sont insatisfaits du nombre ou de la qualité, ou en fait pas de la qualité, mais de la quantité ou de la fréquence.
D'accord. Madame Leduc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Êtes-vous satisfaite ou...
Ben moi, je vais peut-être être à l'inverse de courant, évidemment. Moi, non, pas du tout satisfaite du service. Je crois qu'il y a un gros manque présentement, au sens où on travaille encore beaucoup juste à l'extérieur et la surface de ce qu'on voit de la personne autiste, ce qui fait que, bon, momentanément, ça pourrait fonctionner sur un enfant de bas âge au niveau des services qui sont offerts, mais à long terme, ça fonctionne plus et c'est à ce moment-là que les parents retombent, si on peut dire ça comme ça. Et c'est le coup est plus encore plus difficile parce qu'on pensait que ça y était, qu'enfin on sortait un peu de ce tourbillon-là. Là, je parle pour les plus jeunes.
Ouais.
Effectivement, c'est le service, il est là, il est long. Moi, ça a été 6 ans avant d'avoir un service au CRDI de Montréal. Et puis maintenant, ils se sont retirés parce que mes enfants sont trop complexes pour eux. Donc, ça devient un problématique parce que je crois que moi, la solution est beaucoup dans l'information, donner accès à l'information beaucoup aux parents. Les parents sont encore très méconnaissants et je me mets moi-même là-dedans. Ce qui fait qu'à 11 heures le soir, un enfant qui se rentre la tête dans le mur, c'est pas beaucoup d'intervenants, disons, qui va arriver. Et c'est important pour nous de savoir comment la gérer, cette crise-là, pourquoi elle est arrivée et qu'est-ce qu'on fait avec ça, et pour plus qu'elle arrive une autre fois. Et puis pour rapetisser cette durée de crise-là qui est très difficile à gérer, parce qu'on est vraiment démunis face à un enfant qui ne réagit pas du tout sur tous les protocoles, si on veut, en tant que non-autiste, qu'on a appris dans notre vie. Ils sont un peu parallèles et même, je vous dirais, beaucoup à l'opposé sur certains qui sont plus atteints.
D'accord.
Donc ça devient vraiment paniquant. Et tant et aussi longtemps qu'on n'augmentera pas le niveau de connaissance, et là, le but n'est pas de rendre tous les parents intervenants, là, c'est pas ça. C'est d'être capable de s'en sortir, et à ce moment-là, le stress va, le stress va commencer à descendre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé.
Ouais. Donc, plus de services quand les enfants sont en bas âge.
En fait, le service, il est là. Je ne dis pas qu'il faudrait plus de services. Il faut augmenter la qualité du service. Ça, on a toujours à apprendre, tout le monde.
Ouais.
Travailler beaucoup plus le côté interne de la personne autiste pour être capable d'arriver puis que ça tienne à long terme. Et puis aussi, beaucoup... les parents sont très, très mal informés. On veut tous la baguette magique.
Ouais.
C'est normal, on est des parents, on ne veut pas de difficultés pour nos enfants. Et on est en continuel, si on veut, bataille contre tout.
Oui, mais toutefois...
C'est intéressant, peut-être que ce serait intéressant de voir avec Mme Poirier, éventuellement aussi, à savoir ce qu'elle en pense, mais ce qu'elle disait, que le stress est moindre chez les personnes où les enfants sont en déficience intellectuelle. Peut-être parce que ça fait plus longtemps que c'est connu, je ne sais pas si ça peut avoir influencé.
On va y répondre, mais déjà, je trouve que ça paraît que vous avez beaucoup réfléchi sur le sujet et que vous avez de l'expérience, parce que vous vous posez déjà les bonnes questions quand vous dites « mon enfant se tape la tête contre le mur, qu'est-ce que je dois faire, comment intervenir pour réduire, etc. » Ça, c'est des questions que Mme Poirier, dans son étude, trouve que ce sont des bonnes questions pour réussir à faire baisser le niveau de stress, hein, n'est-ce pas? Vous avez... Déjà, comment vous avez évalué, quels étaient vos critères en termes de pour évaluer le stress des parents?
En fait, on avait une question. On leur demandait, en fait, en fonction du trouble que présentait leur enfant, quelle était une situation qui avait été pour eux stressante. Alors, ça pouvait être une situation liée au manque de services, liée à une particularité de l'enfant, soit un trouble de comportement, une difficulté sur le plan du langage, des difficultés en milieu scolaire. Et à partir de cela, donc à partir de l'exemple, ils devaient nous qualifier leur niveau de stress, que ce soit par différentes qualités. Et ensuite, nous, on les traitait comme si c'était soit perçu comme étant une menace, donc que le stress était vraiment très menaçant pour le parent et qui figeait un peu le parent là, pour avoir une action auprès de ce stress-là. Ça pouvait être aussi une perte, donc le parent perdait tous ses moyens face à ce stress, ou encore il le prenait comme un défi, donc se mobiliser pour gérer le stress en fonction du besoin de l'enfant et du besoin également de leur famille.
Et alors... Pour revenir à ce que disait Madame Leduc par rapport à la déficience intellectuelle, pourquoi les parents autistes sont plus anxieux, d'enfants autistes, pardon?
Plus anxieux, probablement, à mon avis, parce que le trouble du spectre de l'autisme est plus imprévisible que la déficience intellectuelle. Donc, je crois qu'un parent qui a un enfant qui présente une déficience reconnaît quels sont les comportements, quel est le développement de son enfant, tandis que pour un parent d'un enfant autiste, les comportements sont imprévisibles d'une journée à l'autre. Donc, certaines journées, les enfants vont bien, d'autres journées ne vont pas bien du tout. Alors, je crois que c'est ça qui amène un plus grand niveau d'anxiété chez les familles.
Mm-hmm. Et l'impact, donc ça, c'est l'impact des troubles associés et c'est vraiment en termes d'anxiété et comment on peut y répondre alors?
Voilà, donc c'est ça. Il y a beaucoup d'enfants qui présentent un TSA qui vont avoir un trouble associé supplémentaire, que ce soit des troubles sur le plan de l'agressivité ou d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, trouble anxieux, trouble dépressif, etc. Donc, il est vrai que nos parents qui ont participé à la recherche et qui avaient un enfant aussi qui avait des doubles diagnostics comme cela avaient une moindre qualité de vie.
Mm-hmm, d'accord. Donc, Madame Leduc, est-ce que vous retrouvez dans ce que Madame Poirier dit?
Oui, ben c'est ça. Ça reste, c'est peut-être le côté méconnu en fait, pas pour un intervenant qui a 30 ans en arrière du sarrau, si on veut. Pour lui, c'est peut-être tout fait du sens. Pour un parent, il faut comprendre qu'on arrive face première là-dedans. Mm. Tout est chamboulé. Déjà, on apprend que notre enfant a quelque chose de différent. C'est jamais le fun pour un parent. On a une étape de deuil à passer et c'est pas parce qu'on veut l'enfant parfait. C'est pas ça. C'est simplement parce qu'on le sait que ça va être plus difficile pour cet enfant-là et c'est pareil pour toute difficulté dans la vie d'un enfant, quelle qu'elle soit, en fait. On est toujours attristé que notre enfant ne soit pas facile pour lui. Mm. Donc, on a cette phase-là à passer. Mais après ça, ça prend vraiment de l'information très pointue pour être capable d'aider directement nos enfants parce que, comme je vous dis, ne pas savoir, c'est la pire chose. Savoir, c'est pouvoir. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Okay.
Ma vie a complètement changé la minute où j'ai compris sans tout comprendre parce que de l'autisme, c'est extrêmement compliqué.
Ouais.
Et c'est là le bobo, probablement. Ça reste très, très compliqué. Et plus ils sont atteints, plus c'est compliqué. Mais en même temps, lorsqu'on sait quoi faire pour les faire monter, pour les faire progresser, parce que oui, il y a la qualité de vie de l'enfant, mais oui, il y a une possibilité de progression qu'on a comme un petit peu oublié ces dernières années, surtout chez les plus atteints. Donc, le fait de savoir ce qu'on fait, bien, un parent sans intervenant peut y arriver et ça fait toute la différence du monde.
D'accord. Eh bien, très bien. Alors, on va faire une petite courte... un petit intermède musical et on revient sur les possibilités de progression, les stratégies d'adaptation possibles pour les parents et les enfants dans troubles de spectre de l'autisme.
Tu le diras aux enfants, tu prendras ce qu'il faudra de temps. Il y a des mots pour le dire, il y a des mots pour le pire. J'ai vidé l'arsenal, je ne sais plus trop si j'ai mal. J'ai peut-être un fond de fakir, ça peut aider à mourir. Je sais que tu crois encore au miracle, mais je sens que lâche les embâcles. Ce n'est plus vraiment mon corps, il ne tient. Thank you.
embrasse-moi encore. Embrasse-moi encore. Embrasse-moi encore.
Question de la semaine. Comment améliorer la qualité de vie des parents d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme? Peut-on y arriver lorsque les deux parents travaillent?
Oui, nous sommes avec Joanne Leduc, maman de deux enfants autistes, et Nathalie Poirier, chercheuse et à l'origine d'une vaste recherche sur la qualité de vie des parents d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme, c'est comme ça qu'on doit dire. Alors, Madame Poirier, quand vous dites dans l'article qu'on peut lire sur le site internet actualité.ucam.ca que la qualité de vie des parents est directement liée à leur état d'esprit par rapport au TSA de leur enfant, qu'entendez-vous par là?
En fait, la qualité de vie, c'est vraiment la perception que le parent a de celle-ci. Alors, on pourrait avoir un parent qui, selon, à nos yeux, tout va bien et devrait avoir une belle qualité de vie, mais c'est vraiment le parent qui va qualifier sa propre qualité de vie en fonction de sa santé psychologique, sa santé physique, en fonction aussi des difficultés qu'il perçoit chez son enfant, les difficultés familiales ou mm-hmm. encore de couple. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel.
Mm-hmm. Et donc, à ce moment-là, on peut les amener à améliorer leur qualité de vie en changeant de perception?
En fait, c'est en les aidant à cibler quel est l'élément qui va les rendre les plus anxieux et qui va affecter leur qualité de vie. Donc, dans un premier temps, toute personne va gérer un stress de façon affective et émotive, et c'est ce qui est tout à fait correct. Puis ensuite, il faut identifier cette émotion-là. Donc, identifier l'émotion liée à notre stress pour pouvoir passer par la suite à une action concrète envers le stress, que ce soit en lien avec l'enfant, avec la famille ou avec le conjoint, par exemple.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment de passer à une stratégie basée sur les émotions, puis de transférer ça sur une stratégie basée sur la résolution de problèmes. Donc, mm-hmm. quel est le stress et comment je peux, en tant que parents, en tant que mère, réagir et gérer celui-ci pour que ça aille bien pour ma famille.
Oui, ça, ce sont finalement les résultats de vos recherches.
Mm-hmm, oui.
L'émotion est plus difficile à... Enfin, génère plus de stress que l'action ou la résolution de problèmes.
En fait, c'est que de rester dans l'émotion tout le temps, à long terme, ça ne sert à rien. Donc, mm-hmm. on peut être stressé et l'identifier comme étant un stress et c'est... Voilà, ça ne s'arrangera pas. Par ailleurs, alors qu'on a identifié que c'était un stress et qu'on a identifié qu'elle était aussi la source de ce stress-là, les parents, les familles, toute personne va être plus facilement en mesure de cibler comment gérer, donc résoudre le stress en tant que tel.
Joanne, je m'adresse à vous. Est-ce que ce sont des étapes par lesquelles vous êtes passée ou vous passez pour réduire votre stress?
Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que je vais parler très personnellement parce qu'évidemment, chaque parent a son parcours et a son vécu et a sa compréhension et tout ça. Mais dans ce qui me concerne, mon fils a eu des périodes, mon plus vieux est plus atteint, non-verbal. Donc, et il y a eu des périodes là, dans les années 2008-2009 où il se frappait terriblement au visage à grands coups de poing. Mmh. J'ai dû le tenir 24 heures sur 24. Évidemment, à ce moment-là de ma période de vie, j'étais ni plus ni moins une locumène, finalement, parce que je ne dormais que 2 heures par nuit. Et ça a été épouvantable au niveau émotif, parce qu'à ce moment-là, je ne peux absolument pas me détacher de cette émotion-là. C'est sans arrêt, continuellement présent. Lorsque on coupe les légumes puis on tient les mains de l'enfant en même temps, il y a un fort risque de blessure et en même temps, il se frappe puis moi, je tiens le couteau puis bon, c'est épouvantable,
oui.
cette condition de vie-là. Ça a recommencé l'an dernier. Mon fils a 15 ans et ça a recommencé ce tapage-là sur la tête. Donc, c'est sûr que quand ça a recommencé, je me suis un peu écroulée parce que je ne voulais pas revivre cette période-là si noire pour nous.
Mm-hmm.
Par contre, j'ai décidé d'aller dans mon cas, moi, je suis allée en clinique voir SACAD à Québec et puis je me suis fait former, dans le fond, j'ai suivi toutes les formations et c'est cette compréhension-là qui, pour moi, m'a comme sauvée et a sauvé finalement mon garçon, puisqu'en moins d'un mois, il a arrêté de se frapper. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que maintenant, je le sais pourquoi il se frappe. Et c'est là où
c'est ce que je disais tantôt, il faut absolument savoir le pourquoi.
Mais oui.
Et c'est ce pourquoi-là qui est loin. Plus l'enfant est atteint, plus c'est profond. Mais bon, il y a des choses maintenant qui ont été faites. On doit s'en servir pour mieux comprendre. Et c'est cette compréhension-là qui, oui, maintenant, quand ça arrive, parce que l'enfant, c'est pas une machine, évidemment, il redescend. Il y a des journées moins bonnes que d'autres, évidemment. Mais mon attitude face à lui est peut-être plus détachée de l'émotion, ce qui revient à dire ce que Mme Poirier disait. Mmh. Donc, je deviens plus comme une intervenante que la mère qui est découragée, qui connaît rien. Ça fait une grosse, grosse différence. Donc, je demeure la mère. Je ne suis pas intervenante. Je me classe pas comme une intervenante de mon garçon, mais pas du tout. Mais par contre, quand il se frappe, je sais ce qu'il est en train de faire. Alors, je suis tout de suite, immédiatement en mesure de l'aider. La crise dure. Au lieu de durer un mois, va durer une journée, ou même okay. pas. Maintenant, on est rendu à quelques minutes. C'est toute la différence au niveau du stress, de la fatigue et de tout ça. Là. C'est même
pensez-vous,
pas comparable.
Pensez-vous que ce que vous faites ou ce que vous avez appris peut aider les parents d'un enfant qui a des réactions similaires ou qui a des réactions similaires aux vôtres?
Oui,
en termes de violence?
Comme je vous dis, je peux toujours référer qu'à moi-même, mais ouais. Je sais qu'il y a énormément d'études maintenant. C'est Brigitte Harrison et Élise Saint-Charles, évidemment, qui sont derrière ce programme-là. Mm-hmm. Et je sais que maintenant, ils sont appuyés par beaucoup d'études. Ça fait plusieurs années maintenant qui peaufinent le programme et ça devient précis. Et maintenant, c'est plus à elle qu'il faudrait voir les résultats, mais je sais que moi, à parler aux gens qui sont dans ce programme-là, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas lorsque on comprend ce qu'on fait. Mm-hmm. Maintenant, quand ça ne fonctionne pas, c'est soit l'intervenant qui n'a pas fait tout à fait la bonne chose, soit l'enfant qui est probablement, comme je dis, ce n'est pas des machines. Mon fils, quand j'arrive à le calmer et qu'il monte parce qu'il fonctionne par palier, quand j'arrive à le monter de palier, il se met à parler, c'est un non-verbal. Mm-hmm. C'est normal parce que la parole arrive à un certain palier. Donc, si je l'amène au palier de la parler, il va se mettre à parler.
Donc,
c'est
il est possible.
C'est pas une surprise pour moi.
Ouais.
Par contre, il débarque. Pourquoi il débarque? C'est
ouais.
là qu'il faut travailler. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de se maintenir là parce qu'il faut stabiliser les paliers d'en dessous? Ça reste que mon enfant n'a pas été capable de le faire jusqu'à maintenant.
D'accord.
Est-ce qu'il va être capable? Ça,
ben,
je ne sais pas.
On vous le souhaite, on lui souhaite. Oui, c'est ça qui est formidable. Il y a vraiment des solutions en s'informant ouais. davantage. Madame Poirier, le mot de la fin?
Le mot de la fin, j'adore ce que Madame Leduc vient de préciser. En effet, on ne veut pas que les parents deviennent des intervenants. Par ailleurs, comme ils ont des enfants spéciaux, j'apprécie quand le parent devient un parent spécial.
Bon, ben, c'est formidable. Merci à vous deux, Joanne Leduc, présidente du Salon de l'autisme qui, on l'espère,
oui.
sera à nouveau, aura lieu à nouveau en 2019. Et Nathalie Poirier, pour votre recherche, merci beaucoup. Tout sera sur notre site.
Écoutez, accès libre.
Question de la semaine. Comment améliorer la qualité en ayant un trouble du spectre de l'autisme? Peut-on y arriver lorsque les deux parents travaillent?
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. En pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant, tout allait bien. J'aime lire, mais non, je ne l'ouvrirai pas. Je la laisserai là, cachetée, silencieuse. J'aime lire, mais non.
silencieuse, je ne risquerai pas.
À chaque émission, nous vous faisons découvrir un essai ou un roman historique disponible en version audio grâce à Vues et Voix. Si vous vivez avec une déficience visuelle ou un handicap qui vous empêche de lire un livre papier, vous pouvez profiter de ces versions sonores disponibles au service du livre adapté de BANQ. Aujourd'hui, nous vous invitons à entendre la quatrième de couverture du livre « Le Grand Cœur » de Jean-Christophe Ruffin, paru en 2012 aux éditions Gallimard.
Dans la chaleur d'une île grecque, un homme se cache pour échapper à ses poursuivants. Il évoque sa vie hors du commun et tente de démêler l'écheveau de son destin. Fils d'un modeste pelletier, il est devenu l'homme le plus riche de France. Il a permis à Charles VII de terminer la guerre de Cent Ans. Il a changé le regard sur l'Orient. Avec lui, l'Europe est passée du temps des croisades à celui de l'échange. Comme son palais à Bourges, château médiéval d'un côté et palais Renaissance de l'autre, c'est un être à deux faces. Aussi familier des rois et du pape que des plus humbles maisons, il a voyagé à travers tout le monde connu. Au faîte de sa gloire, il a vécu la chute, le dénuement, la torture, avant de retrouver la liberté et la fortune. Parmi tous les attachements de sa vie, le plus bouleversant fut celui qui le lia à Agnès Sorel, la dame de beauté, première favorite royale de l'histoire de France, disparue à 28 ans. Son nom est Jacques Cœur. Il faut tout oublier de ce que l'on sait sur le Moyen-Âge et plonger dans la fraîcheur de ce livre. Il a la puissance d'un roman picaresque, la précision d'une biographie et le charme mélancolique des confessions. Jean-Christophe Ruffin, médecin, voyageur, écrivain, est l'auteur de romans désormais classiques tels que « L'Abysse Saint », « Globalia » ou « Rouge Brésil », prix Goncourt 2001.
Quelle belle voix! Et voici maintenant le début du chapitre 1.
Je sais qu'il est venu pour me tuer. C'est un petit homme trapu qui n'a pas les traits phéniciens des gens de Kio. Il se cache comme il peut, mais je l'ai remarqué à plusieurs reprises dans les ruelles de la ville haute et sur le port. La nature est belle sur cette île, et il m'est impossible de croire qu'un tel décor puisse être celui de ma mort. J'ai eu si peur dans ma vie, j'ai tant de fois craint le poison, l'accident, le poignard, que j'ai fini par me faire une idée assez précise de ma fin. Je l'ai toujours imaginé dans la pénombre, au crépuscule d'un jour de pluie, sombre et humide, un jour semblable à celui où je suis né et à tous ceux de mon enfance. Comment ces énormes figuiers de barbarie gonflés de suc, ces fleurs violettes qui pendent en grappes le long des murs, comment cet air immobile, aussi frémissant de chaleur que la main d'un amoureux, ces chemins qui sentent les aromates, ces toits de tuiles rondes comme des hanches de femme, comment toutes ces splendeurs calmes et simples pourraient-elles servir d'instrument à la nuit absolue éternelle, à la froidure violente de ma mort? Page 14. J'ai 56 ans. Mon corps est en pleine santé. Les tortures que j'ai subies pendant mon procès n'ont laissé aucune trace. Elles ne m'ont même pas dégoûté des humains. Pour la première fois depuis bien longtemps, depuis toujours peut-être, je n'ai plus peur. La gloire, la plus extrême richesse, l'amitié des puissants ont tari ce qu'il pouvait y avoir en moi d'ambition, d'impatience avide, de désir vain. La mort, si elle me frappait aujourd'hui, serait plus injuste que jamais. Elvira, auprès de moi, ne sait rien. Elle est née sur cette île grecque et ne l'a jamais quittée. Elle ignore qui je suis, et c'est cela que j'aime en elle. Je l'ai rencontrée après le départ des bateaux de la croisade. Elle n'a pas vu les capitaines de navires, les chevaliers harnachés pour combattre, le légat du pape me témoigner leur respect forcé et leurs hommages hypocrites. Ils avaient cru à mes prétendues douleurs et flux de ventre et avaient accepté de m'abandonner sur cette île pour que j'y guérisse ou plus probablement que j'y meure. Je les avais suppliés de m'installer dans une auberge près du port et non dans la citadelle du vieux Podesta. Je leur avais dit que je mourrais de honte si ce noble génois, à son retour de voyage, apprenait que j'avais déserté le combat. En réalité, je craignais surtout qu'il découvre que j'étais en parfaite santé. Je ne voulais pas devenir son obligé et qu'il m'empêche le moment venu de quitter l'île pour jouir de ma liberté. Il y eut donc cette scène ridicule, moi couché, les bras étendus sur les draps, suant, non de fièvre, mais de la touffeur du porc qui pénétrait dans la chambre. Au pied de mon lit, en une bousculade qui débordait sur l'escalier de bois et jusqu'à la salle basse au-dessous, se pressait un groupe de chevaliers en cotte, de prélats vêtus de leurs plus belles chasubles sorties des coffres de leur nave et toutes fripées encore d'y avoir été serrées. Des capitaines, le homme sous le bras, essuyant des larmes de leurs gros doigts.
Tu pars de ton ombre.
question de la semaine. Comment améliorer la qualité de vie des parents d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme? Peut-on y arriver lorsque les deux parents travaillent?
N'oubliez pas de répondre sur notre site internet ou notre page Facebook Canalem ou Vues et Voix. Le Japon est-il un pays où il fait bon voyager lorsque l'on est en fauteuil roulant? C'est Aup Savard, spécialiste des communications visuelles et conférencière chez Kerul, qui nous en parle via les yeux de son conjoint. Bonjour Aup.
Bonjour.
Donc c'est bien ça, hein? C'est votre... Oui, c'est votre mari qui est allé au Japon?
Oui, tout à fait. Il est allé pour le Japon. Il est allé au Japon il y a 2 semaines. Il y a passé aussi 2 semaines. C'était dans le cadre de son travail.
Mm-hmm.
Donc, il est allé principalement à Hiroshima.
Ouais. Et donc, il a l'habitude de voyager avec vous et de se faire l'œil critique d'Aup Savard.
Oui.
Alors, ensemble.
Justement, comme j'y étais pas. Il l'a été encore plus que d'être.
Eh oui, pour prévoir éventuellement un voyage avec vous.
Oui, ben oui, tout à fait.
Eh oui,
oui, oui.
Quelle Mais note? Oui?
C'est une destination relativement accessible.
Oui?
Alors, on va la garder pour quand on va être un petit peu plus vieux.
Ah, d'accord. Et alors, quelle note ensemble donneriez-vous au Japon pour son accessibilité universelle?
Sûrement un bon 8.
Ah oui.
Oui, 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 oui. C'est assez impressionnant. Il m'a ramené des photos de ce qu'on appelle là-bas des Tenji Blocks.
Okay.
C'est un parcours tactile au sol,
ouais,
qui a été conçu dans les années 60 pour les personnes avec une déficience visuelle. Et donc, c'est un parcours tactile, un peu comme ce qu'on voit dans sur le quai des métros pour la partie tactile là, qui est tout près,
ouais,
avant de tomber dans le
Dans les rails, sur les rails, oui.
C'est ça, sur les rails, exactement. Donc, c'est un peu le même principe,
mm-hmm,
mais c'est plus large et ça suit les trottoirs, ça mène aux différentes boutiques, ça mène aux parcours qui sont les plus accessibles, donc aux rampes.
OK.
Ça mène aussi aux ascenseurs.
OK, intéressant, oui.
Très, très intéressant parce que effectivement, ça aide beaucoup les personnes aveugles,
ouais,
mais ça aide aussi justement les personnes qui sont à mobilité réduite, en fauteuil roulant, etc.
Mm-hmm.
Parce qu'on voit tout de suite, ah tiens, il doit y avoir un ascenseur par là-bas parce que le parcours tactile s'y rend.
OK. Et il y en a beaucoup de ces parcours?
Dans toutes les parties modernes, oui. Puis on s'entend, bon, les vieilles parties, c'est celles des années 50, là. À Hiroshima, on s'entend, c'est pas très vieux.
Mm-hmm.
Mais étant donné que de toute manière, la principale partie des villes,
ouais,
sont modernes, effectivement, il y en a beaucoup. Mon copain en a vu, mais vraiment à de nombreuses reprises.
Et pas seulement à Hiroshima? Ou est-ce que
à Kyoto aussi, okay, il en a vu, ouais. Donc ça a l'air d'être assez répandu.
D'accord, génial. Et est-ce que donc du coup le Japon est une société inclusive?
Je pense que oui. Je pense qu'on peut dire facilement que c'est le cas. J'ai lu d'ailleurs qu'il y a une loi qui a été mise sur pied il y a quelques années. C'est une loi qui vise à éviter l'exclusion des gens qui ont un problème au niveau du développement,
mm-hmm,
donc des personnes avec un trouble de l'autisme ou des personnes avec un trouble de santé mentale, etc. Donc, il y a vraiment des efforts qui ont été faits pour décourager la discrimination,
mm-hmm,
tant à l'école que sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment une super belle idée, je trouve. Puis, paraît-il, je sors un petit peu du sujet, là, mais...
Allez-y.
Paraît-il que les toilettes qui sont réservées pour les personnes handicapées, il paraît que c'est les meilleures au monde.
Ah ouais? Made in,
ouais,
Japan.
Exactement.
Ouais,
ah
oui. Ils sont assez forts.
Ils ont vraiment pensé à tout, là. C'est impressionnant. Très impressionnant.
Donc, à exporter. Et,
oui.
Et quel est son meilleur souvenir du Japon?
Ah, lui, ça l'a été la bouffe. C'est un Français, alors.
Oui, non, mais moi, je pense que ça serait la même chose. Mon conjoint est allergique aux poissons, malheureusement. Donc, ce n'est pas un pays qu'on va aller visiter ensemble, mais oui, d'accord, la cuisine japonaise.
Oui, la cuisine japonaise, il a vraiment adoré. Comme il me dit, j'ai mangé des trucs que j'ai jamais vus ailleurs. Je ne sais vraiment pas ce que je mangeais, mais c'était jamais mauvais.
D'accord.
Et puis, un truc qu'il a vraiment trouvé assez fabuleux, c'est que quand on vient pour choisir notre menu au restaurant, soit il y a vraiment sur le mur des images de tous les menus, ou même il y a un exemple même qui a été refait par des stylistes culinaires, là, mais qui sont comme derrière une vitrine. Donc, tu as vraiment comme un exemple de ce qu'on
va manger.
Le mets que tu désires prendre, et puis tout ce qu'il y a sur le menu est montré comme ça.
D'accord, bon, intéressant. Si c'est bien fait, pourquoi pas?
Oui.
et en termes d'architecture ou de choses à voir, est-ce qu'il y a des conseils à nous donner?
Ben, c'est sûr que, bon, Kyoto, ça reste la ville que tous les touristes préfèrent, et même, je pense que tous les Japonais en sont très fiers, parce qu'il y a énormément de temples à visiter là-bas. Il y a
des temples accessibles, alors?
Oui, il y en a plusieurs qui le sont, effectivement. Donc, ça, c'est vraiment une super belle chose. Il y en a vu un, d'ailleurs, où il y avait vraiment la rampe qui était très, très bien intégrée à tout l'ensemble. Donc, ça faisait partie du design même du temple, d'avoir la rampe et tout. C'était pas comme un ajout qui rendait un peu l'ensemble disgracieux, mais pas du tout.
Et le temple était ancien? L'architecture datait de...
Je me rappelle pas c'était de quelle année. Forcément, on s'entend. Les temples en Asie, ce sont souvent des temples qui sont faits en bois, donc, et où, sur lesquels il y a beaucoup de peinture. Donc, c'est toujours, toujours, toujours en restauration.
D'accord.
Donc, on parle peut-être d'une conception ancienne, mais on s'entend que la conservation, elle, est toujours actuelle, en fait.
Oui, les aménagements peuvent être récents.
C'est ça, exactement. Donc, oui,
c'est
super, super intéressant, vraiment. Puis la signalisation est vraiment hors pair aussi. Il m'a montré beaucoup de panneaux de signalisation où les personnes à mobilité réduite sont vraiment prises en compte, c'est-à-dire que tout de suite, on va t'indiquer si tu es une personne en fauteuil roulant, passe de tel côté parce que par là, c'est le parcours accessible. Donc, il y a pas besoin de chercher par où est-ce que je dois passer. Oh mince, il y avait des escaliers ici, c'était pas indiqué, je dois revenir sur mes pas.
Ouais.
Ça arrive
là, c'est
très
pensé.
Souvent.
Oui.
Et là, c'est vraiment très réfléchi. Donc, signalisation merveilleuse, des toilettes à la pointe de la technologie.
Bon, ben c'est
bien
super.
Réfléchi,
super,
donc,
super. Oh, merci beaucoup. On va mettre un gros A+ au Japon. Pays exemplaire, et on se le garde pour nos vieux jours.
Parfait.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au plaisir.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Complications due to things that I've left undone, that all my debts will be left unpaid. Feel like a cripple without a cane. I'm like a jack of all trades who's a master of none. My father, he's always looking on the bright side, saying things like, son, life just ain't that hard. He is the grand optimist. I am the world's best.
he will escape unscarred. I guess I'll take after my mother. I used to be quite resilient, gained no strength from counting the beads on a rosary. And now the wound has begun to turn, another lesson that has gone unlearned. But this is not a cry for pity or for sympathy.
Question de la semaine. Comment améliorer la qualité de vie des parents d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme? Peut-on y arriver lorsque les deux parents travaillent?
En réponse à la question à laquelle vous pouvez toujours répondre sur notre site internet ou notre page Facebook, je vous lis quelques réponses qu'on a déjà reçues. La première, Isabelle Rose, écrite il y a 2 jours sur le site de Canal M. Ouf, toute une question. Du soutien, des services, sensibiliser les neurotypiques. Les parents d'enfants TSA sont souvent isolés, surmenés et ne savent pas vers qui se tourner. Les services sont souvent ponctuels et les remaniements de personnel amènent un désinvestissement de part et d'autre. La population d'enfants TSA est en hausse. Il faudrait se sentir davantage concerné par tout ce que cela implique. Éducation, services sociaux, etc. Merci aussi à toutes celles, voilà, pour la première. Et Sylvie Lozon, qui nous répond sur notre page Facebook. C'est tellement pas facile. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une chef de service tellement, mais tellement compréhensive, qui a sauvé ma famille dans un moment où aucune solution n'était possible, sauf d'avoir des congés pour consulter. Mon équilibre mental était en jeu, mon couple s'éloignait, ma famille éclatait. Moi, ce que je voulais le plus, c'était sauver mon fils autiste que j'adore tellement. Alors, grâce à cette personne que nous avons pu consulter la famille au complet, et grâce à cette personne, nous sommes tous réunis encore maintenant et nous sommes heureux. Merci, Guylaine. Un message de Sylvie Lozon à son intervenante. Alors voilà, pour plus d'informations sur les intervenants et organismes qui sont venus ici, n'oubliez pas de visiter la page de l'émission Accès Libre, repérable sur canalm.vusevoix.com. Permettez-moi de saluer toute l'équipe, Christiane Campagna aux communications, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, ici Anne-Laure Janson à la recherche et en remplacement de Benoît Racette qui sera là, rassurez-vous, en pleine forme la semaine prochaine. D'ici là, on se souhaite toujours plus de logements, de commerces et de rues en accès libre.